Vous êtes sur RTL.
10h30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, donc bienvenue dans RTL Midi. 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions, vous l'avez compris, avec les auditeurs. L'info, ce sera avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal. Et à la une, près de 2 millions de salariés désormais soumis au pass sanitaire. La vaccination qui aurait déjà sauvé 47 000 vies rien qu'en France. Et puis l'ouragan Ida. Le jour se lève tout juste en Louisiane. On ira faire le point sur les premiers dégâts.
Et juste après le journal à 12h42, débat, le pass sanitaire pour les salariés. Est-ce que ça va fonctionner? Faut-il donc limiter la vitesse à 30 km/h en ville? C'est la nouveauté depuis ce matin à Paris, interdiction d'aller au-delà. Qu'en pensez-vous?
La mesure, on le rappelle, existe déjà quand même dans 200 communes de France. Justement, c'est notre question sur RTL. Faut-il limiter à la vitesse à 30 km/h en ville? Eh bien, c'est un non massif. Un non à 70%, vous dites oui à 25%. La météo, c'est avec Louis Baudin aujourd'hui. Bonjour Louis.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Et bonne nouvelle, ça va s'arranger dans l'après-midi.
Exactement, dans la moitié nord notamment, où on a eu un réveil plutôt nuageux avec même quelques bruines. Et bien, au fil des heures, vous allez voir, les éclaircies vont revenir. J'ai dit éclaircies, hein, ça sera pas encore du grand ciel bleu. Il restera même un petit risque d'averse, notamment dans le nord-est ou près des Vosges. Par exemple, pendant ce temps-là, dans la moitié sud, là, pas de changement. Il y a eu du soleil ce matin, il y en aura encore cet après-midi. Un peu plus de nuages sur les reliefs et les températures. 21 à 24 degrés dans la moitié nord cet après-midi, c'est à peu près de saison. 25 à 30 degrés dans le sud.
Et ce sera mieux pour tout le monde dans les prochains jours. Vous nous direz tout ça à 13h. À tout à l'heure, Louis.
RTL Midi.
Depuis ce matin, ce sont donc près de 2 millions de Français, 1 800 000 précisément, qui ne peuvent plus travailler sans. Ça y est, le pass sanitaire est obligatoire pour les salariés partout où il l'est déjà pour les clients. Ça vaut au cinéma, dans les musées, les trains grandes lignes ou encore au restaurant. Vincent Serrano, bonjour. Vous êtes à la brasserie Mollard dans le 8e arrondissement de Paris. On est en plein service. Premier service avec ce pass sanitaire pour les salariés. Comment ça se passe ?
Alors écoutez, ici en tout cas en cuisine, les plats sont en train de se préparer. On va les envoyer bientôt en salle. Tout a l'air comme d'habitude, comme avant même ce pass sanitaire. Je vais me rapprocher de Cyril qui est le chef de cette cuisine, vacciné avec un pass sanitaire maintenant.
C'est ça, on va pouvoir retravailler, reprendre la vie d'avant. Et...
Vous portez plus de masque d'ailleurs ?
Non, plus d'un mètre de distance et on est vacciné. C'est le but de reprendre notre vie d'avant.
Bon écoutez, bon courage Cyril, il y a du plat à envoyer ce midi. On va maintenant entrer en salle pour poser la question à d'autres serveurs, Saïd notamment. Alors pour vous, cette vaccination, ça a été un peu plus compliqué ?
Oui, bien sûr. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Je ne suis pas convaincu de l'efficacité du vaccin. Là, c'était ça ou pas de ressources ? Le choix est facile à faire en fait.
Je vois quelqu'un là derrière à la 61 qui lève la main, je vous laisse aller voir. On va se rapprocher maintenant de Monsieur Macho, le directeur. Ce pass sanitaire pour les employés, ça a été une grosse machine.
J'ai eu 2-3 personnes qui avaient une position un petit peu plus radicale, mais avec un sens de responsabilité, on a réussi à convaincre tout le monde.
Voilà, donc pas d'inquiétude dans ce restaurant qui s'apprête, donc comme avant, ce pass sanitaire à servir jusqu'à 120 couverts ce midi.
Merci beaucoup Vincent Serrano dans cette brasserie du 8e arrondissement de Paris. Et pour ceux qui sont vaccinés depuis plusieurs mois, ouverture aujourd'hui des rendez-vous pour la troisième dose. Ça concerne les plus de 65 ans qui sont vaccinés depuis plus de 6 mois. Dans ce contexte, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, s'inquiète ce matin de la stagnation de la vaccination en Europe. La seule solution, hein, c'est le vaccin pour sortir de cette crise. C'est ce qu'a répété ce matin sur RTL le professeur Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique.
Au cours d'une pandémie, le virus doit faire le tour du monde. Et quand on dit qu'il fait le tour du monde, il fait le tour de tout le monde sur la planète. Et donc, à un moment donné, il faudra qu'on soit tous immunisés contre ce virus. C'est donc grâce à la vaccination qu'on accélérera la fin de la crise pandémique à l'échelon mondial, hein, pas à l'échelon français.
Le professeur Lina a invité ce matin sur RTL d'Alba Ventura, un vaccin qui a par ailleurs déjà permis de sauver 47 000 vies. 47 000 rien qu'en France, Odile Pouget.
Oui, 47 000 décès évités entre début janvier et le 20 août, ainsi qu'un peu plus de 39 000 séjours dans les services de réanimation. Voilà l'impact de la vaccination à l'échelle de la population. Attention, ces chiffres résultent d'une projection, d'une modélisation réalisée par les chercheurs de l'Université de Montpellier, aidés par les CHU de Nîmes et de Caen. Ces résultats ont été obtenus en comparant la courbe réelle des décès et des entrées en réa depuis janvier avec la vaccination et la courbe projetée dans un scénario sans sans aucun vaccin. Alors on voit très bien que c'est à partir de fin mars, début avril, soit 4 mois après les premières injections, que les effets bénéfiques se font clairement sentir. Les courbes divergent fortement, que si on poursuit cette extrapolation jusqu'en décembre, eh bien c'est plus de 67 000 séjours en soins critiques et 78 000 décès qui pourraient être évités sur l'année. Attention, ce sont des estimations seulement, mais ces résultats ne sont pas surprenants. On sait aujourd'hui que le vaccin réduit par 11 le risque d'être hospitalisé et que sur le terrain, près de 9 malades sur 10 en réa ne sont pas vaccinés.
Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL.
Et à partir du 30 septembre, les salariés mineurs, compris les apprentis, devront aussi être à jour. Le pass sanitaire pour les salariés, est-ce que ça va fonctionner? Ce sera notre débat tout à l'heure.
Sur le front économique, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, indique que ce pass sanitaire n'a aucun impact sur l'activité économique du pays. Le ministre de l'économie qui recevait aujourd'hui les différents secteurs qui ont bénéficié d'aide au cours de ces 18 derniers mois, représentant du commerce, du tourisme ou encore de l'événementiel. Il s'agit d'évoquer la fin du quoi qu'il en coûte. Le fonds de solidarité s'est acté et prolongé d'un mois jusqu'au 30 septembre. Une bonne chose, dit ce matin Didier Chenet, il préside le Groupement National des Indépendants.
Oui, c'est satisfaisant parce que c'est quelque chose de pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne retire pas d'un seul coup et ça permet de nous donner du recul pour savoir un petit peu ce qu'il va se passer au cours du mois de septembre. Car notre grande inquiétude, nous, au mois de septembre, c'est de savoir quel va être le comportement des consommateurs. Vous savez que le fait qu'il y ait le télétravail, le fait qu'il y ait le pass sanitaire, tout ça, ça va avoir un impact sur l'activité. Donc vous voyez, on a le temps d'analyser, nous sommes satisfaits.
Didier Chenet au micro RTL de Pierre Herbulot. Autre nouveauté du jour, l'entrée en vigueur du 30 km/h dans Paris. Depuis ce matin, plus question d'aller au-delà, mis à part sur les grands axes. La mesure est déjà en vigueur dans plus de 200 communes en France et elle est loin, à Paris en tout cas, de faire l'unanimité. Et illustration avec ces quelques réactions recueillies ce matin du côté de la Porte Maillot.
C'est bien parce que au moins il y aura moins d'accidents. C'est de la prudence et c'est très bien, je trouve.
30, c'est quand même pas beaucoup pour une voiture et pour un scooter. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'incivilité, quoi.
C'est une petite bêtise, une fois de plus, de la part de la maire de Paris. Les trottinettes électriques vont aller plus vite que les voitures.
Il y aura plus de pollution que si vous rouliez à 50. Hein, parce que les embouteillages, ils vont se faire de plus en plus. Avec 30 à l'heure, personne ne va avancer et la pollution, elle sera là.
De toute façon, la vitesse dans Paris, c'est 11 ou 12 km à l'heure. Alors ça ne change pas grand-chose, qu'on fasse à 30 ou à 50, je ne vois pas bien la différence.
Des automobilistes parisiens pas vraiment convaincus, ils étaient au micro RTL de Lucille Besse.
Pour ou contre le 30 km/h, on en débattra tout à l'heure avec Pierre Chasseret, qui est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
Dans les Ardennes, reprise ce matin des fouilles pour tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin. La zone a déjà été ratissée au printemps dernier. Mais cette fois, l'avocate du père de la fillette se dit confiant. Maître Didier Seban compte beaucoup sur les dernières précisions données par Monique Olivier.
On est sûrement tout proche de découvrir la vérité, ou en tout cas surtout de découvrir le corps d'Estelle. Elle a toujours confirmé avoir été présente, être venue chercher Michel Fourniret. Elle a toujours confirmé l'endroit. Elle donne aujourd'hui plus de précisions sur le lieu où les choses ont pu se passer. Donc on espère que cette fois-ci, on va toucher au but et retrouver le corps d'Estelle.
L'avocat du père d'Estelle Mouzin avec Alice Moreno pour RTL. Direction à présent les États-Unis. Le jour se lève sur la Louisiane après le passage de l'ouragan Ida. Lionel Gendron, bonjour. Vous êtes le correspondant d'RTL sur place. Il est 5h38 à la Nouvelle-Orléans, 7h de moins. Les habitants qui se sont retrouvés plongés dans le noir cette nuit, privés d'électricité, découvrent ce matin l'ampleur des dégâts.
Oui, et près d'un million de foyers sont privés de courant. Le bruit le plus caractéristique en ce moment à la Nouvelle-Orléans, c'est celui-ci, le bourdonnement des groupes électrogènes dans les hôtels, dans les hôpitaux, dans certaines maisons individuelles. Des milliers de personnes vont rester sans électricité pendant des jours, voire des semaines. Il fait encore sombre en Louisiane, le jour se lève tout juste. C'est donc maintenant, dans les minutes qui viennent, que l'on aura une idée de l'ampleur de la catastrophe. Désormais, Ida n'est plus un ouragan, mais une tempête tropicale avec son corollaire de très fortes précipitations. Il y a d'ailleurs prévoir des inondations dans plusieurs endroits et au vu des quantités d'eau, elles sont potentiellement très dangereuses. Au moment où je vous parle, on est toujours sur ce bilan très provisoire d'une personne tuée par la chute d'un arbre. Selon des médias américains, des digues ont cédé. On ne sait pas si c'était sur des zones évacuées. En tout cas, les gestionnaires du 911, le numéro qui centralise les appels de secours, s'attendent à être débordés ce matin.
Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux États-Unis, merci à vous. On vous retrouvera bien sûr tout au long de cette journée. Les États-Unis où le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi pour faire le point sur la situation en Afghanistan. Réunion à la veille du retrait officiel des Américains et alors que l'aéroport de Kaboul a de nouveau été la cible de tirs de roquettes ce matin. C'est dans ce contexte et alors que l'État islamique, on en a eu la preuve ces derniers jours, continue de semer la terreur, que s'ouvrira la semaine prochaine le procès des attentats du 13 novembre. À partir d'aujourd'hui, RTL vous propose chaque jour une série de témoignages exceptionnels. Ils ont vécu le 13 novembre, y ont survécu et sont là aujourd'hui pour ne pas oublier. Témoignage ce midi d'Arnaud. Il était à l'intérieur du Bataclan au moment de l'assaut.
Ils se sont un peu amusés avec nous, dans le sens où l'un des terroristes est allé mitrailler la fosse. Il nous faisait entendre vraiment le cri et les pleurs des gens. Moi, j'étais persuadé que j'allais mourir. Ça m'a fait comme une espèce d'uppercut, quoi, le souffle. Je me suis couché, j'étais en état de choc, comme les soldats de la guerre 14-18, quand ils restaient à crever sur le champ d'honneur. Moi, je pensais à mes filles, principalement. J'ai dû crier un peu « maman ».
Un témoignage recueilli pour RTL par Nicolas Burnand. Un témoignage à retrouver plus en longueur à 18h tout à l'heure dans RTL Soir et en intégralité sur notre site internet rtl.fr.
Et l'histoire du foot retiendra que c'est Mbappé qui a marqué deux jours, le jour précisément où Messi a fait ses débuts en championnat de France.
Oui, doublé hier face à Reims et on est à 36 heures de la clôture du Mercato. Bref, on s'interroge. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Mbappé va y aller au Real ou finalement ou pas?
Écoutez, lui-même n'en a pas la moindre idée à cette heure. Au-dessus de lui non plus d'ailleurs. Son entraîneur hier soir encore, Mauricio Pochettino, n'avait d'autre discours que l'incantation de départ de ses dirigeants sportifs. Il faut qu'il reste, il doit rester. Mais Leonardo, directeur sportif, et Nasser Al-Khelaifi, le président, sont eux aussi totalement tributaires du bon vouloir de Doha. Le Qatar va décider ou non dans les heures à venir s'il est préférable en fait de privilégier le club dont il est l'actionnaire, Paris, ou le club de Florentino Pérez, partenaire économique privilégié, donc le Real Madrid, qui à cette heure n'a pas formulé de troisième offre supérieure à 180 millions d'euros.
Mais alors son match hier, il éclipse clairement Messi, est-ce que ça peut changer la donne?
Alors dans sa tête, non. Il est préparé aux deux options. Il sort évidemment renforcé de ce match, mais si la porte madrilène venait à s'ouvrir, il ne va pas renier son choix. Madrid est désormais son projet, que ce soit dans un an ou demain. C'est plutôt du côté du club hein, que la prise de conscience est encore plus nette, plus forte, que depuis un an maintenant, Kylian Mbappé porte littéralement l'équipe sur ses épaules. Ça ne peut que durcir en fait la position du PSG dans les dernières heures.
Bon, verdict d'ici demain soir minuit. Après, ce sera trop tard. Merci beaucoup Philippe. Philippe Sanfourche.
Deux débats à suivre. Le pass sanitaire pour les salariés. Est-ce que ça va fonctionner? Faut-il limiter la vitesse à 30 km/h? On en parle dans une seconde.
Sucré. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
La mesure était une promesse de campagne d'Anne Hidalgo pendant sa réélection. Elle entre donc en vigueur ce matin et tout le monde est concerné, voiture et deux roues.
La mesure en question, ce sont ces fameux 30 km/h dans Paris. Pas plus, on vous en parle depuis ce matin sur RTL. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Alors vous êtes carrément allé tester tout ça en chair et en os dans les rues de la capitale. On vous a entendu vous faire klaxonner.
Bien sûr, cela ne prend pas en compte les voitures électriques. En revanche, l'impact sur le bruit est direct puisque cela fait baisser le niveau sonore de 3 décibels, c'est-à-dire quasiment de moitié.
Je rêve ou on vient de vous klaxonner?
On vient de klaxonner, exactement.
Voilà, donc, on vient de l'arrivée, ça s'est passé comment? Les Parisiens ont respecté ou pas?
Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une journée normale lorsqu'on a pris la voiture technique RTL ce matin. Alors tôt, 6h30, c'était fluide, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Mais lorsque vous rouler à 30 km/h, on s'est fait klaxonner, vous venez de l'entendre, coller, beaucoup de personnes m'ont dépassé, j'ai fait le calcul, 31 dépassements en 40 minutes. Bon, c'est vrai que la tentation, c'est quand même d'accélérer, parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'accélérer à Paris, lorsque les rues sont vides. Et puis, à 30 km/h, on a quand même l'impression un peu de se traîner, si vous me permettez l'expression. Et puis, il faut avoir l'œil rivé sur le tableau de bord, on n'a pas l'habitude, ou de mettre le limiteur de vitesse à Paris, c'est paraît complètement dingue, mais il faut avoir cette habitude-là. Et puis, il faut savoir aussi que c'est pas vraiment nouveau, parce qu'il y avait déjà 60% des rues à Paris qui étaient à 30 km/h. Finalement, je pense que la difficulté, ça sera plutôt d'atteindre les 30 km/h, parce qu'à Paris, la vitesse moyenne est à peine de 15 km/h.
Elle est de 11-8.
Ouais. Ça n'arrête pas de baisser.
Non, mais entre 9h du matin et 20h, dans 80% des rues de Paris, vous ne pouvez pas atteindre 30 km/h.
Non.
Et c'est vrai aussi pour les grandes villes.
Absolument, Marseille, Lyon, c'est exactement pareil.
Bonjour Pierre Chasseret, vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Merci d'être avec nous en studio. Je vous voyais sourire quand Christophe Bourou nous faisait ses explications, son récit de ce matin.
Non, parce que je me dis qu'avec Christophe, on a finalement les mêmes réflexes. J'ai fait la même chose. C'est-à-dire que je suis allé dans Paris. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. J'ai voulu voir ce qui se passait. J'ai vu aucune différence avec les autres jours.
C'est le premier jour en même temps.
Il faut être très honnête. En fait, à Paris, entre 9h et 20h, vous pouvez même mettre un panneau de limitation à 130 km/h. Ça ne changera pas le problème. On ne roule pas à 20, même pas à 30. Donc pour ça, ça ne sert à rien. En revanche, pour les moments où c'est fluide, moi, je voudrais insister sur une petite confusion qui est faite en France. Et j'entends ça depuis ce matin. On confond la vitesse conseillée, le 30 en ville, qui est une vitesse conseillée, parce que c'est bien, effectivement, aux alentours de 30, 35, c'est plutôt mal, avec la limitation de vitesse, la vitesse maximale autorisée. Quand j'entends la mairie de Paris nous dire « on ne roulera plus à 50, on roulera à 30 », pardonnez-moi, c'est idiot.
Mais
je n'ai
pas compris ce que vous dites.
Eh bien, c'est simple.
Je ne comprends pas ce que vous dites. Conseiller, autorisé, je ne vois pas, ce n'est pas la même chose.
Une vitesse maximale autorisée à 30 km/h, ça veut dire que si vous êtes à 31, vous êtes verbalisable.
Oui.
Donc, vous pouvez être sanctionné d'une amende de 135 € et de la perte de points sur votre permis de conduire.
C'est jusqu'à 2 points, je crois, Christophe.
Oui, mais j'entends bien, mais pourquoi voulez-vous que la mairie conseille de rouler à 30?
Parce que la prévention, ça existe et qu'on peut aussi faire des campagnes de prévention sans avoir à toucher au panneau.
En fait, l'automobiliste serait responsable et se dirait bon, bah, là, ça roule. Donc, je peux y aller. Mais sauf que ça ne se passe jamais comme ça. Regardez l'autoroute.
Parce que si on bascule dans les pays, parce qu'il faut savoir que la France est un très mauvais pays de sécurité routière. On est 15e élève européen. Donc, très mauvais. Malgré tous les discours que nous sert la sécurité routière au quotidien, on est plutôt au ventre mou du classement, plutôt bas. Quand vous allez dans les pays nordiques qui font mieux que nous, ils établissent une réglementation qui est basée sur le 85 centile, donc je l'ai traduit par la règle du 85%. Ils adaptent la réglementation au comportement de 85% des usagers parce qu'ils...
Mais à l'étranger, vous n'avez pas des Français. Les Français pour les automobiles, c'est compliqué.
Pascal,
j'ai appris quelque chose.
Ah, si. Mais non, arrêtez, non. Ceux qui transgressent le plus les limitations de vitesse en France, ce sont justement les Anglais.
J'ai appris quelque chose d'absolument incroyable. Quand on roule à 30 km/h, on pollue davantage qu'à 50.
Et oui, 15% en plus. Et c'est une étude sérieuse, hein, ça ne sort pas d'une étude complètement farfelue. C'est le CEREMA, c'est un centre d'études d'établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Alors, c'est paru en plein mois d'août, le 17 août, donc un peu passé sous silence, mais c'est vrai. Alors, en fait, pourquoi ? C'est simple, parce que nos voitures thermiques ne sont pas programmées pour rouler à des vitesses aussi basses. Et puis, il faut savoir que la pollution s'opère lorsque vous démarrez votre voiture. L'énergie, vous en avez besoin lorsque vous démarrez votre voiture, pas lorsque vous roulez. Donc, c'est un peu contre les idées reçues. D'ailleurs, les écologistes le reconnaissent et disent oui, non, mais finalement, ça va fluidifier le trafic. Ils sont plus sur cette optique-là qu'à une véritable, on va dire, plus-value pour l'environnement et l'air.
Oui, on m'avait dit que c'était pour éviter l'effet accordéon. Moi, j'ai tendance à dire que les écologistes se sont trompés d'instrument de musique. C'est plutôt l'effet pipeau, tout ça, quoi.
Bon, alors, on va écouter, tiens, l'adjoint au maire de Grenoble, où la mesure est en place depuis 2016, et lui, il lui voit plutôt que du bon. Écoutez.
Un bilan très positif. Un nombre d'accidents en forte diminution. On passe de 70 accidents par an en moyenne à 50. C'est un nombre de victimes piétons qui est divisé par deux. On passe de 28 à 14 en moyenne par an. Et des effets collatéraux positifs comme moins de bruit, une baisse de 3 décibels, ce qui diminue le bruit par deux.
Deux fois moins de victimes parmi les piétons et les cyclistes à Grenoble depuis 2016, ça n'a pas de prix, ça, Pierre Chasseret.
Le problème, Amandine Bégaud, c'est que j'ai toujours un souci, moi, avec les chiffres. C'est quand on me sert une statistique comme cela, je vais vite regarder ce qui se passe en tendance d'accidentalité dans les villes qui sont restées à 50. Et je m'aperçois que c'est la même tendance. En fait, depuis 1972, en France, et heureusement, on a de moins en moins d'accidents. Il y avait 18 000 tués sur les routes en 1972. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aujourd'hui le collectif Ville 30 met en avant que dans leurs 200 villes, il y a une réduction réduction du nombre d'accidents. C'est un fait.
Sauf que
c'est exactement la même
là,
que dans les autres villes.
Là, vous comparez avec des chiffres globaux sur tout le territoire, non ?
Non, c'est exactement la même chose. Les villes à 30 observent la même baisse de l'accidentalité que les villes qui sont restées à 50. Donc, dans le final, ça ressemble beaucoup à de la propagande. Pourquoi ? Parce que les villes qui passent à 50, j'en discutais aussi avec un maire adjoint à Bègles, c'est très intéressant, parce qu'ils ont baissé la vitesse de 20 km/h, ils ont observé un changement des vitesses pratiquées de 1 km/h. Donc, effectivement, quand vous abaissez de 20 km/h, et ça rappelle le débat sur le 90-80, c'est-à-dire que vous ne changez pas les vitesses moyennes pratiquées.
Mais c'est une tendance lourde et vous verrez que sur les autoroutes, le débat arrivera de passer de 130 à 110.
Il a eu lieu.
Et vous verrez qu'on y viendra parce
que... C'était le joker d'Emmanuel Macron sur les mesures de la Convention pour le climat à l'époque.
On a tout dit ?
On a tout... Enfin, non, on peut continuer à en parler avec les auditeurs tout à l'heure, non ?
Bien évidemment, au 3210, vous pourrez appeler. Merci. Le pass sanitaire dans une seconde, puisque désormais, cuisiniers, serveurs, employés de musée ou encore bibliothécaires doivent avoir le pass sanitaire pour travailler. Ce qui veut dire qu'ils se sont vaccinés il y a un mois. Ou autrement, ils ont un PCR de 72 heures. Mais nous sommes d'accord que si tu te vaccines aujourd'hui, tu auras ton pass sanitaire avec vaccination dans un mois. A tout de suite.
Nous misons là. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Chef cuisinier, je travaille tous les jours, donc je peux me permettre de faire un test le matin, arriver, attendre une heure ou deux heures pour le test, arriver en retard en cuisine ou quoi, et pour un vaccin, autant le faire. Parce que si tu ne fais pas vacciner, on perd tout. On perd le salaire. Pendant 15 jours, on est à la maison, le patron derrière, il peut nous licencier, et ça peut faire des répercussions très importantes pour l'avenir, quoi.
Cuisinier, serveur, comme on vient de l'entendre avec Cadour, employé de musée ou encore bibliothécaire, ils sont donc nombreux à avoir attendu pour se faire vacciner, mais depuis ce matin, ils n'ont plus le choix. Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les salariés qui travaillent dans un établissement où ils l'étaient déjà pour les clients. Bonjour Céline Verzioletti.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. La CGT qui est contre ce pass sanitaire, pourquoi ?
Eh bien parce que nous pensons qu'on aurait dû faire bien autrement pour le coup permettre aux salariés et aux usagers et usagères d'être protégés lorsqu'en effet ils vont sur un lieu public ou sur un lieu privé où il y a un certain nombre de personnes. Nous pensons qu'il faut vraiment faire appel à la responsabilité de l'État, essentiellement, dans ce qu'il peut mettre en place pour une égalité d'accès pour une vaccination massive, ça c'est très clair, mais aussi pour mettre en place une réorganisation, qu'elle soit sociale ou au niveau des lieux de travail, pour permettre toujours des gestes barrières et une distanciation physique qui est toujours nécessaire parce qu'on l'oublie aussi, on a l'impression que le pass sanitaire réglerait tout, ce qui est complètement faux et ce qui ne permettra pas à lui seul de rompre avec cette pandémie. Et puis on a bien d'autres revendications, notamment en termes de santé publique, où là aussi nous pensons que le gouvernement a eu des défaillances, en a encore, n'investit pas suffisamment la santé publique.
Revenons sur ce pass. Vous incitez à la vaccination et en même temps vous êtes contre le pass sanitaire. On a un peu du mal à comprendre.
Non, c'est pourtant, je pense, assez simple. On peut être favorable à la vaccination en disant que c'est une des mesures de progrès social sans précédent du XXe siècle. Heureusement qu'il y a de la vaccination et qu'il y a des vaccins. Ça, c'est très clair. Par contre, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir d'obligation de vaccination. C'est un choix individuel et personnel.
Mais il n'y en a pas non plus d'obligation de vaccination, parce que je rappelle que le pass sanitaire, vous pouvez l'avoir par la vaccination ou par un test négatif qu'à 72 heures.
Okay. À part que là, il y a quand même des obligations et des contraintes. Vous êtes bien d'accord là-dessus.
Il y a des contraintes. Il y a des contraintes.
Plutôt axé sur la contrainte et l'obligation que sur la sensibilisation et que sur des moyens mis en place pour que, par exemple, sur les lieux de travail, nous, ça fait des mois et des mois que nous demandons à ce que les salariés puissent être vaccinés ou testés sur les lieux de travail et sur leur temps de travail. Ça, c'est quelque chose qu'on a eu du mal.
C'est le cas aujourd'hui.
Pas dans toutes les entreprises.
Non, mais les salariés peuvent aller se faire vacciner sur leur temps de travail.
Ça prend 5 minutes d'aller se faire vacciner, Madame Verzelletti.
Non, pas 5 minutes.
Ça me paraît pas l'essentiel de l'argumentation. En revanche, ce qui est intéressant de dire, peut-être, c'est que votre solution alternative, si j'ai bien compris, c'est de respecter les gestes barrières. Parce que c'est ça que vous proposez. S'il n'y a pas obligation du pass sanitaire, vous dites qu'il faut respecter les gestes barrières. Et là, je vous dis, est-ce que c'est suffisant ?
je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la vaccination... Non, justement, contrairement à ce que peuvent dire certains, employeurs aujourd'hui, d'ailleurs, où on a du mal à leur faire entendre que même s'il y a un pass sanitaire, même si nous sommes tous vaccinés, il faut quand même aussi respecter les gestes barrières. Et c'est nous qui devons le dire sur les lieux de travail, et nous nous battons encore pour qu'il y ait des jauges, par exemple, dans les musées. Nous nous battons pour qu'il y ait des masques dans les milieux confinés, parce que souvent l'employeur nous dit, non, c'est bon, il y a le pass sanitaire, ça suffit. Et la médecine et la recherche disent que non, c'est les deux, et on ne peut pas se satisfaire simplement d'une vaccination ou autre. C'est ça que nous disons. Et on ne peut pas nous taxer de... Enfin, depuis le début de la pandémie, on a été sur le terrain, sur les lieux de travail, pour obliger les employeurs ou dans la rue, pour obliger le gouvernement et l'État de mettre à disposition des masques, je ne sais pas si vous vous souvenez, du gel. Enfin, sur les lieux de travail, on a été des mois et des mois
obligés d'aller travailler sans protection. Je suis d'accord avec vous, mais d'expliquer que vous ne voulez pas le pass sanitaire, parce qu'au départ, il n'y avait pas de masque.
Non,
convenez que cette argumentation, elle passe mal aujourd'hui.
Non, mais le pass sanitaire, vous êtes bien d'accord quand même que aujourd'hui, hier, les soignants, les caissières, toutes ces personnes, des salariés qui se sont exposés, qui ont certaines
contractualités, Madame Verzelletti, là-dessus. Mais c'est tout le débat entre le bien commun et la liberté qui est entamé. C'est vrai que c'est une contrainte. C'est vrai que la liberté est entamée, mais on considère que c'est pour le bien commun.
Non, mais ce qui peut... Alors, faisons de vraies campagnes de sensibilisation sur la vaccination. On en voit...
Je pense qu'il n'y en a plus besoin aujourd'hui, parce qu'on en parle matin, midi et soir.
On voit bien. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas en parler midi et soir. C'est une campagne, une vraie campagne sur les lieux de travail. Nous, par exemple, on a demandé, dans plein de secteurs professionnels, qu'il y ait des spécialistes qui viennent rencontrer, mais des médecins, pas les employeurs ou quoi, qui viennent rencontrer les salariés pour leur expliquer comment, pourquoi la vaccination est un geste essentiel pour justement combattre une pandémie. C'est nous qui le demandons sur les lieux de travail. Et le pass sanitaire, ce que nous contestons et dénonçons, c'est que s'il n'y a pas de pass sanitaire, l'employeur puisse suspendre un salarié sans rémunération. Ça, ce sont des sanctions
complètement
inacceptables.
Ça, c'est autre chose. Et ça peut s'entendre, mais c'est autre chose.
Merci beaucoup,
en tout cas. Oui, mais c'est ce qui est contenu dans la loi, en tout cas pass sanitaire.
Merci Céline Verzelletti d'avoir été en direct avec nous dans RTL Midi, secrétaire confédérale, je le rappelle, de la CGT. Merci.
Et 12h58, Monsieur Bonheur nous rappellera la météo et on attend des stats. Moi, ça m'intéresse beaucoup les statistiques à la fin du mois d'août pour savoir si vraiment il y a eu moins de soleil, notamment dans le Nord. On n'a pas salué Damien Béchiot qui est avec nous.
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde.
Bonjour, on va marquer une pause et ça va être le rappel des titres et puis les auditeurs ont la parole.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes.